Salut, ici Cathy Alexandra Rétamal et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis avec les parents des familles participantes au balado Rassemblons-nous. Donc, je suis en fait privilégiée d'être en présence de Maria et Cristiano. Comment ça va?
Ouais, ça va.
Ça va bien? Parfait. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter le premier épisode, allez l'écouter. Mais je vous explique rapidement le concept de notre balado. Donc, nous recevons des familles récemment immigrantes au Canada. Je vais tout d'abord vous poser des questions que j'ai écrites pour vous, qui vont être les mêmes questions posées à vos enfants. Et on va pouvoir comparer par la suite comment les réponses divergent ou pas. Et dans une deuxième partie d'épisode, vous allez devoir répondre à des questions que, dans ce cas-ci, vos enfants vous ont écrites, sans savoir qui a écrit la question. Et on se reverra dans un dernier épisode pour savoir si vous aviez bien deviné qui a écrit les questions et comment vous avez trouvé votre expérience. Alors, tout d'abord, avant de nous plonger dans les questions, comment vous vous sentez? On se sent un peu de nervosité.
Curieux, c'est ça. L'écoute est déjà là, donc juste si on attend les sifflets, là.
Oui. Donc, comme au premier épisode, je vous rappelle qu'ici, tout est permis. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête de la façon que vous voulez, dans la langue que vous voulez. Ça sort comme ça sort. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, après, on regardera ce qu'on veut garder ou non. Mais ça reste ouvert. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et on est ici, comme le titre le dit du balado, rassemblons-nous pour créer des connexions. Alors, plus vous allez être ouvert par rapport à votre honnêteté, votre vulnérabilité, plus on va pouvoir créer cette connexion-là parce qu'on ouvre la porte et c'est ce qu'on va demander à chacun d'ouvrir cette porte. Okay. Et donc, nous allons commencer.
Ouais. Okay.
Alors, comment on va procéder? C'est que je vais poser les questions. On commence à les premières questions, c'est les questions que j'ai pour vous. Je pose les questions de façon large. Vous répondez à tour de rôle et il n'y a pas de tour de parole. Donc, vous y allez comme vous le sentez. Okay. S'il y a des questions que vous ne préférez pas répondre, c'est correct aussi. Il n'y a pas, mettons, de temps limite, dans le sens où est-ce que si vous répondez et après, Maria, tu réponds, puis tu dis « Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai oublié de dire ça », on crée une discussion.
Okay.
Ça vous va?
OK.
Parfait. Alors, on va commencer avec ma première question. J'aimerais que vous me racontiez, dans vos mots, comment s'est passé le moment où vous avez pris la décision de quitter votre pays d'origine. Donc, amenez-moi avec vous dans votre tête. C'était quand? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez dit « OK, là, c'est décidé, je quitte ». Comme vous voulez.
OK. Comme demandeur d'asile, je suis demandeur d'asile. Il y a une petite situation dans mon pays avec ma fille et moi qui malheureusement m'a obligé à sortir de mon pays.
Vous a obligé à sortir.
M'a obligé. Merci beaucoup.
Et juste obligé. Pour rappeler aux auditeurs, dans le fond, vous quittiez quel pays?
Je viens de Colombie.
Colombie.
Et maintenant, je ne peux pas parler à précis de la situation.
OK.
Mais pourquoi décider Canada? Parce que je n'ai pas de documents d'identité au Canada, comme en mon pays, visa. Mm-hmm. Je n'ai pas de visa, j'ai seulement des documents pour aller à les États-Unis.
OK.
Quand j'arrive à les États-Unis, après, j'ai parlé avec mon père. Mm-hmm. Parce que mon père, c'est d'origine Honduras. OK, merci, Christian. D'origine Honduras, il habite ici.
Il habite au Canada, vous dites?
Il, Il habite.
Il avait habité au Canada.
Il avait déjà habité
parce
au Canada.
Parce que maintenant, il est mort.
OK.
Et je l'ai rencontré la situation de mon pays. Et elle me dit la possibilité d'aller à un petit réfugié dans les États-Unis. Et elle me dit l'expérience de mon père. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir.
Okay.
Parce que, comme j'ai dit avant, ce n'est pas possible que ma fille et moi on pas continué dans votre pays, mm-hmm. dans notre pays. Et pour les États-Unis, les problèmes de les armes,
les armes à feu,
de les armes à feu, pour moi, ce n'est pas un bon pays mm-hmm. pour ma fille. Mm. C'est le grand problème pour ma fille. Et heureusement, Canada me dit, oui, vous pouvez entrer. Mm. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer
donc,
ici.
Si je comprends bien, la décision au départ, c'était juste de partir.
Oui.
Et vous n'aviez pas tout de suite pensé au Canada?
Et oui, j'ai pensé, par exemple, Espagne.
Ah, OK.
OK. Et les États-Unis. Mais malheureusement, il n'y a pas de. Je ne connais pas une personne dans l'Espagne ou dans les mm-hmm. États-Unis comme mon père, que c'est ma fille, c'est mm-hmm. ma famille. Mm-hmm. Et j'ai pensé, OK, si j'ai parti à un pays que je ne connais pas, à un familial, un ami, une personne. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si je suis malade? Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Ou qu'est-ce qui se passe avec si ma fille est malade? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai décidé ou non. Finalement, oui, c'est Canada. Mais ce n'est pas Montréal.
Mm, OK.
Non, la première idée, c'est Toronto.
Ah oui, ah, okay.
Parce que
qu'est-ce qui s'est passé?
Mon père habite à Toronto.
Il habite à Toronto.
Ok, oui. Mais quand j'ai allé au Toronto, la première nuit, c'est très, très mal. Très, très mal. Très, très mal. Et malheureusement, quand j'ai entré au Canada, mon père est mort. Mm. Et 16 jours avant, mon père est mort.
7 jours avant que vous arriviez.
Exactement. Mmh. Je ne peux pas entrer pour dire ou pour, ne sais pas le nom en français, despedir, mais.
Oui, pour dire au revoir. En fait. Vous avez pas eu la chance de dire au revoir.
Exactement. Pour dire au revoir de mon père, mais je sais qu'il m'a aidé.
Oui.
Il nous aidait beaucoup parce qu'il m'a pu parler de son expérience comme immigrant ici. Mm-hmm. Mais je savais que ce n'est pas possible d'entrer dans la maison de mon père
okay.
parce qu'il a habité dans un bâtiment seulement pour la personne née.
Ah,
ok, ce n'est pas possible.
Et âgé.
Mm-hmm. Merci. Mais ok, je pense, ok, dans le bord d'immigration, me dit le nom d'un réfugié. Mm. Quand je revois le réfugié, ok, j'ai découvert que le réfugié travaillait bien tous les jours, tout le temps, 24 heures.
Mm-hmm. 24 heures.
Mais malheureusement, quand j'ai arrivé à les réfugiés s'est fermé.
Okay.
Les réfugiés s'est fermé, la personne habite ici, mais la personne ne veut pas ouvrir la porte.
Okay.
Ne veut pas ouvrir la porte. Ok. Et il y a beaucoup de situations. Et finalement, Sophia et moi, on terminé. On a dormi sur la lit de les chiens.
Oh, okay.
Sur la lit de?
Les chiens.
Des chiens.
La personne, il y a un chien mm-hmm. et elle me donne la lit de son chien.
Oh, wow. Le lit
sur la lit de son chien, pourquoi? Je ne sais pas. En ce moment.
Ça, c'était à Toronto.
Oui, en ce moment, j'ai dit non. Toronto, ce n'est pas la ville pour moi. Et seulement, il y a un ami à Montréal. C'est pour ça que les prochains jours, j'ai décidé de venir à Montréal, heureusement.
Ouais. Et puis, quand vous étiez en Colombie et que vous avez pris cette décision-là de partir à cause d'une situation X, quel est le sentiment que vous direz qui dominait le plus? Qu'est-ce que vous sentiez le plus comme sentiment? Est-ce que vous aviez hâte? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était la tristesse de laisser votre pays derrière? C'était quoi le sentiment le plus fort que vous sentiez à ce moment-là?
Pour moi, le sentiment plus fort fut la sécurité.
La sécurité.
Oui,
le désir
la sécurité de
la vie. Donc, il y avait quelque chose
de
positif qui vous appelait la sécurité.
Oui, exactement, parce que dans mon pays, ma fille et moi, ma fille plus que moi, il n'y a pas de sécurité pour elle. Et quand j'ai vu que la sécurité de ma fille, ce n'est pas possible dans mon pays, j'ai décidé de fermer les yeux, poser la tête et OK, j'ai décidé que le pays, c'est Canada.
OK. Puis est-ce que ça a été quand même un long processus? Est-ce que vous avez mijoté longtemps à prendre la décision par rapport à quitter ou ça s'est fait quand même rapidement?
Non, ce n'est pas un long processus pour la décision d'immigrer.
Okay.
Parce que quand vous êtes demandeur demandeur d'asile, vous ne décidez pas. Vous ne pensez pas.
Oui.
OK, est-ce que j'ai.
Oui, c'est ça. Il faut partir.
Seulement, oui, fermer les yeux et payer les billets de voyager, monter et voilà.
Parfait. Et Cristiano, je vais donner la parole à Cristiano. Donc je vous repose la même question. Si on fait un retour en arrière, est-ce que de la journée, disons, ou du moment, s'il y avait un moment comme ça précis où est-ce que vous avez dit, OK, là, il n'y a pas de retour en arrière, c'est maintenant, je prends la décision, je quitte. Raconte-nous comment tu as vécu ça.
Bon, moi, c'était difficile. Ce n'était pas vraiment, disons, mon rêve de venir immigrer. Donc, comme je dis, c'est toujours les situations qui se passent dans nos pays. C'est ça qui cause que vous êtes obligés d'abandonner. Parce que par rapport à notre pays, il y avait, disons, une stabilité bonne à toute personne qui travaille. Par rapport à mon statut, comme je suis un ingénieur électricien, donc j'avais aussi mon propre entreprise là-bas. Et suite à une marche pacifique qui s'est passée dans notre pays, et moi, j'étais aussi pas le membre de cette marche qui était là-bas, mais comme j'ai passé, ça arrivait qu'ils ont cru aussi, moi j'étais aussi membre de cette partie, parce qu'il y a des partis qui se battent là-bas et tout le monde connaît l'Angola et MP La Unita. C'est maintenant qu'ils s'entendent, mais avant ils ne s'entendaient pas, et ça arrivait qu'ils ont cru aussi, moi j'étais aussi participant de cette marche et j'étais frappé. Du coup, parce que j'allais travailler, et par curiosité, je voulais voir qu'est-ce qui se passe à côté de mon travail. Mm-hmm. Et ils ont cru aussi, moi, j'étais aussi participant de marche. J'étais parmi les membres de UNITA et on m'avait frappé. Même à ce moment que je vous dis, donc, je suis un handicapé, que j'étais juste une seule main pour le moment, suite à ce problème. Et j'étais arrêté. Je fais presque une année en prison et c'était à travers un général qui m'a aidé. Il m'a obligé parce que j'étais obligé aussi de quitter. Donc, c'est un général qui connaissait mon père. C'est lui qui m'a aidé à quitter le pays. Donc, c'était obligatoire. Donc, il n'y avait pas moyen de reculer, okay, de faire tout cela. Et j'étais obligé de quitter tout seul, laisser ma femme et mes deux enfants. Et ma femme et mes enfants, quand ils sont restés, ils étaient aussi obligés de retourner, aller vivre à la province, parce que nous, on était au capital. Ils étaient obligés de retourner aux provinces, là où vivait le grand-père de ma femme. C'est là où ils pouvaient être un peu en sécurité. Mm-hmm. Et moi, j'étais obligé de quitter. Et ils ont fait tout pour moi et ils ont pris un visa des États-Unis pour que je quitte. C'était en 2013 que j'ai eu ce problème et j'ai quitté l'Angola en 2015.
Wow.
Et donc, en 2013, j'ai eu ce problème. Je suis allé aux prisons. J'ai fait une année jusqu'à 2014. Je suis sorti et après, j'étais obligé en 2015 de quitter. Et en 2015, je suis quitté pour venir aux États-Unis. Et c'est là que j'ai commencé à faire des traitements pour mon bras parce que j'ai un nerf qui est coupé à cause de ce qui m'a frappé. Et ça fait que je vécu pendant 2015 aux États-Unis jusqu'à 2022. Jusqu'à 2022, c'était mon dernier jour aux États-Unis par rapport au statut.
Et vous étiez seul?
Ouais, non, disons en 2020, ma femme, donc mon ex-épouse, est venue avec Christina. Parce okay. qu'eux aussi, ils ne pouvaient pas rester au pays. Mm-hmm. Parce qu'on poursuivait toujours des personnes qui étaient, qui ont fui la prison. Ils cherchaient les identifications de leurs femmes, leurs enfants, tout cela. Alors, c'était vraiment une grande longue histoire. Et enfin, disons, mon père était reconnu au pays. Parce qu'il était parmi des grands membres des partis qui étaient là-bas, l'UNITA. Et il y avait parmi un policier qui a aidé ma femme et mes deux enfants de quitter le pays. Mais malheureusement, il n'y avait pas les moyens de quitter les deux à la fois, ma femme avec deux enfants. Parce qu'il y avait plein de choses vraiment et ma femme a pu juste quitter avec Christina. Et ils étaient obligés de marcher. Parce que moi, je venais avec les visas. Donc, j'ai eu l'avion aux États-Unis, au Angola, aux États-Unis. Mais ma femme était obligée de marcher. Mexico, Brésil, disons Colombia, tout cela, Honduras, jusqu'à arriver aux États-Unis. Et ils sont arrivés en 2020. Et c'est ce que moi j'ai dit que c'est un mauvais souvenir pour moi parce que ce n'était pas leur chemin qu'ils pouvaient faire dans la vie parce que Christina a vécu plein de choses, des morts au chemin, tout cela, plein de choses vraiment. Et en 2020, on était là avec mon épouse aux États-Unis pendant 2 ans. Et malgré la séparation de 7 ans, 8 ans comme ça. Et c'est en 2022. Comme on dit, on ne sait pas ce qui s'arrive dans la vie, mais ça n'a pas tenu qu'on soit ensemble, tout cela. Et moi, j'ai décidé encore d'abandonner les États-Unis. Mm. J'ai dit non, je veux commencer une autre vie au Canada. Pourquoi j'ai choisi le Canada? Parce que les États-Unis, pendant tout ce temps-là que je vécu, il n'y a rien qui changeait par rapport à mon statut.
OK.
J'utilisais toujours le permis de travail de 2 ans. J'ai demandé l'audience, tout cela. Mais ça n'a pas tenu. Et j'ai décidé, je dis à mon ex-épouse, je dis que non, moi, je vais aller au Canada parce que là-bas, tous mes amis qui étaient ici au Canada, ils ont reçu leurs papiers.
Okay.
Et moi aussi, je vais abandonner ici parce que je ne peux pas continuer. Je peux faire 10 ans, 20 ans. On voit ici aux États-Unis, il y a des 20 ans, 25 ans sans papiers. Moi, j'abandonne.
C'est l'insécurité, justement, vous parlez de sécurité. Ouais, donc, ça, c'est peut-être dans l'incertitude.
C'est ça. Vous ne savez pas si tu vas recevoir les papiers ou pas. Ouais. Parce que vous êtes obligé de se marier avec une Américaine, tout cela.
Ouais.
Donc, pour moi, j'avais vu ça, c'était comme une obligation. Et j'ai tout abandonné. J'ai dit à mon ex-épouse, j'ai dit, je vais amener Christina pour le Canada et faire une autre vie là-bas. Et c'est pour cela que... Et je suis venu au Canada. Et ici, je me sens à l'aise parce que je sens déjà que avant 2 ans, mon statut, ça va changer par rapport aux États-Unis.
Oui. Bon. Puis de la même façon que j'ai posé, s'il y a un sentiment qui dominait le plus, surtout dans votre situation, puisque c'était pas nécessairement un choix, en fait, étiez obligé.
Mm-hmm.
Quel était le sentiment qui vous habitait le plus à ce moment-là quand on vous a annoncé que vous deviez quitter le pays?
Bon, c'était triste premièrement parce que j'ai tout abandonné, tous mes biens, brusquement, parce que je ne pouvais pas même le récupérer parce que tout c'était dans l'œil du parti qui dominait. Et triste aussi, c'était parce que j'étais à distance avec mes enfants.
Mm-hmm.
Donc, de 2013, dès que j'ai eu ce problème, je n'ai pas vu ma femme, je n'ai pas vu mes enfants.
Mm.
Je viens juste de les voir en 2020 que je vis ma fille Christina et ma femme en l'air comme ça.
Mm.
Et Grégory, il est resté jusqu'à maintenant. Il est dans une famille d'accueil là-bas en Angola et on se parle juste pour le téléphone, on se voit par les vidéos. Donc pour moi, c'était triste parce que j'avais tout abandonné et j'ai tout repris à zéro ici. Donc, si je pense à ce que j'ai laissé là-bas dans mon pays, c'est comme si que... C'est pour ça qu'on dit que là, disons, là où nous venons en Afrique, il n'y a pas vraiment les sécurités. Un seul coup, vous pouvez être pauvre directement. Mm. Parce qu'il y a la loi qui change à tout moment, il y a des choses qui se dominent, vous n'avez pas assez de pouvoir là, donc ce n'est pas facile. Mm. Ouais.
Puis, rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous vous ennuyez le plus de votre pays d'origine?
Ennuyer comment, j'ai pas compris.
Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays qu'on ne retrouve pas ici?
Moi, je veux dire, c'est...
Ça peut être quelque chose, comme ça peut être un sentiment aussi, ça peut être quelque chose lié à la culture, à la nourriture, à une expérience.
Moi, c'est plus l'amitié, la liberté... disons, comment je peux expliquer ça, la famille, ouais. Tu vois, c'est ça plus qui me manque, parce que ici on est plus concentré à travailler,
ouais.
Faut payer les
ouais.
billes, payer tout ça, donc ouais, vous ouais. êtes obligé, si vous payez pas, on est derrière toi, ou on t'ajoute les taxes et tout, c'est là.
La façon d'aborder les relations sont différentes.
C'est ça, c'est ouais. très différent vraiment par rapport au pays, malgré ici on est sécurisé.
Oui.
C'est ça la différence. Mm-hmm. Ouais.
Et pour vous, Maria?
Ok. à l'extérieur, je peux dire que j'ai ennuyé.
Et je m'ennuie.
Ah, je m'ennuie. La nourriture. Oui, c'est très différent.
Une réponse populaire.
Oui, oui. Ce n'est pas mal, la nourriture ici, mais c'est très différent. Beaucoup de...
À
Colombie. Non, à Colombie, beaucoup de fruits, beaucoup oui. de juice de fruits oui. naturels.
Naturel, oui.
Exactement, ouais. comme ça.
La première fois que
les fromages. Ouais, oh, les fromages, c'est totalement différent. Et l'avocat. Oui. Mais à l'intérieur, j'ai m'ennuie monde de ma mère. Mm. Parce que, heureusement, avec quand la pandémie, j'ai me uni, j'ai fait la union à ma mère.
Ok.
Dans la pandémie, parce que je suis la personne qui fait toute la livraison de ma famille, et spécifiquement de ma mère. Mais j'ai pu connaître un peu ma mère, parler avec ma mère, et quelque chose. Et tous les jours, par exemple, à 17h,
oui.
je suis allée à la maison de ma mère, s'asseoir dans la porte, parler quelque chose, n'importe ouais. pas, et prendre un café, et c'est ça, c'est un café avec du pain. Et c'est comme le moment que j'ai m'ennuie.
Ouais. Parfait. Je vous pose maintenant, ça passe, le temps passe quand même rapidement.
Okay.
Je vais vous poser encore peut-être deux petites questions pour le volet questions générales avant de passer aux questions de vos enfants. Si on arrive maintenant au Québec, j'aimerais vous poser la question. En fait, je vais faire deux questions en une. Pour vous, que signifie le Québec en ce moment dans votre vie et comment... vous définiriez ce que c'est être québécois? Comme je vous dis, ça peut être un mot, comme ça peut être... C'est libre. Et c'est quelque chose qui peut changer. C'est pour ça que j'ai dit en ce moment, parce que quand vous êtes arrivé, peut-être que c'était quelque chose, et aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre, puis dans un an, ça va être une autre définition. Mais en ce moment précis, pour vous, qu'est-ce que signifie le Québec pour vous et qu'est-ce que c'est, selon vous, être québécois?
Bon, moi, le Québec, ça signifie la première famille, ma première maison. Si je peux dire, c'est ça. Et Et l'autre, c'était... La...
Pour vous, c'est quoi être un Québécois?
Bon, en un mot, je ne sais pas comment signifier vraiment ça.
Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi. Ça aussi, c'est une réponse.
Ouais, c'est ça.
Des fois aussi, je me demande c'est quoi. Ouais. Parce qu'il y a tellement de ouais. différentes expériences.
Expériences, ouais. Parce qu'être Québécois, disons, je ne sais pas comment signifier ça. Je ne sais pas connaître tout.
Est-ce que vous vous considérez Québécois?
Mais oui, bien
sûr. C'est pas une question piège, hein, vous pouvez non, répondre.
Mais bien sûr, je suis déjà ici, donc oui. Je sais qu'après, à toi, 5 ans ou 6 ans, donc je sais que je serai déjà vraiment, comme on dit, Québécois, non?
Oui.
Parce qu'on est en train de faire des découvertes petit à petit et on est obligé de s'intégrer dans la place, donc...
Puis pour vous, jusqu'à présent, est-ce que justement ce processus d'intégration, ça se passe bien? Vous le vivez bien?
Oui, comme je viens de le dire, oui, parce qu'on n'a pas le choix. Et on est ici et en plus, il y a des enfants qui étudient et vous êtes obligés d'encadrer surtout nos enfants pour avoir aussi ce que nous, on a gagné dans nos bagages des scolarités, disons. Donc, pour moi, je me sens vraiment à l'aise parce que, comme j'ai dit, c'est ma nouvelle vie, c'est ma nouvelle famille ici. Donc, c'est ça.
Ouais. Parfait. Maria?
OK. Pour moi, Québec, c'est la province de les merveilleux et je suis Alice. Comme l'histoire de
Alice en
que je suis Alice et Québec et Saint-Amand-Montréal, c'est le pays, c'est la province ou la ville de les merveilleux. Parce que.
Juste t'ai coupé, c'est cette histoire-là, c'est des Québécois qui ont écrit ça? Alice des Merveilles.
Non, c'est pas québécois.
Ah, ok.
C'est
une ancienne histoire.
Mais c'est une histoire.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Ok.
Mais je pense que c'est une histoire française, ne sais pas.
Oui, je crois, parce que moi, je me souviens qu'à l'école, il y avait des livres.
Oui.
L'histoire qui a fait cette histoire.
C'est une histoire connue, assez
connue. Les livres français. Oui.
Parce que, en j'ai pu faire beaucoup de choses que dans mon pays, ce n'est pas possible. J'ai pu changer mon profession, mon métier. J'ai pu changer mon métier. J'ai pu apprendre une nouvelle langue que avant j'ai pensé que c'est très difficile. Et non, ce n'est pas... Le français, ce n'est pas difficile. Pour moi, obviously. J'ai pu amuser la vie. Parce que j'ai
profiter de la vie.
Oui, parce que j'ai pu avoir le temps de partager avec ma fille en différentes activités. Je sais que pour quelques personnes, c'est un peu drôle l'expression que j'ai dit. Mais par exemple, dans mon pays, je ne peux pas aller au parc. Parce que pour la sécurité, ce n'est pas possible. Mais à Montréal, je peux aller à un parc librement, tranquillement, marcher au parc. Quand? Oui. Pour moi, oh, wow!
Mais c'est fou quand même, en écoutant ça, puis en parlant justement des différentes cultures, ce qu'on disait un peu plus tôt, comment ici, d'une certaine façon, on est quand même une société qui est plus... focusser justement sur le travail 9 à 5 et tout ça. Et nos pays, souvent, on est plus comme, OK, famille vivre la vie, le moment présent et tout ça. Et pourtant, on immigre pour aller chercher le contraire, justement. C'est comme on vient d'un pays où est-ce que ça fait partie de nos valeurs, mais pourtant, on n'y a pas accès. Et ici, on arrive ici, puis c'est là qu'on peut réellement profiter. De ces valeurs-là qu'on nous a inculquées, de cette autre culture.
Exactement. Et si la question de si je me suis Québécois...
En fait, avant, pour vous, c'est quoi être Québécois? Si vous êtes capable de répondre. C'est une grosse question.
OK. Je m'excuse si mon français, ce n'est pas bon. Je pense que oui. Parce que cette province est très tranquille. Je me suis en pause, en peace, On English peace passe.
Ah, vous vous sentez en paix. Est-ce que vous dites que pour vous, être québécois, c'est se sentir en paix? Okay.
Oui. Okay. Et c'est le silence de la ville et la façon comme la personne ouvre la porte à les immigrants parce que la majorité des personnes, c'est une personne très agréable, très sourire. Oui. Et par exemple, j'ai pu aller à un restaurant et c'est très tranquille, c'est je ne me sens pas de stress. Non, tout le monde, les serveurs tranquilles, les cuisiniers tranquilles. Oh, wow! Ouais. Dans mon pays, c'est un peu
on n'est pas au même rythme.
Exactement.
Mais c'est drôle, vous dites ça. Puis, il y a quelques jours, mon père parlait justement de son expérience, lui, qui a immigré du Chili. Puis, il disait à quelqu'un... Moi, il y a des gens qui me disent « Hey, c'est plate, le Québec, c'est plate. » Il dit « Oui, mais moi, c'est ça que j'aime. Mm-hmm. » J'aime que ça soit plate, qu'il ne se passe rien. Parce que c'est... La tranquillité, ça n'a pas de prix. La paix, tu sais, au Chili, il se passe toujours quelque chose.
Ouais, c'est ça.
Que ce soit politique, tremblement de terre,
oui, c'est ça.
Il se passe tellement tout le temps quelque chose. Mm-hmm. Et pour lui, ce que beaucoup de personnes, et que d'ailleurs beaucoup de, aussi même Québécois, vont voyagent partout pour aller chercher c'est quoi l'expérience, et sans savoir que finalement, cette tranquillité-là, c'est une richesse, en fait, que les gens viennent chercher.
Oui, c'est ça. C'est que, comme moi, je viens de le dire, même nous, là-bas, en Afrique, c'est ça. Donc, à un seul coup, vous pouvez retourner pauvre ou à un seul coup, vous pouvez aussi être riche.
Ouais.
Mais vous n'avez pas vraiment une chose précise parce que ça change à tout moment. C'est ça, les problèmes. Par rapport à ici, vous pouvez faire un plan et ça peut être... réaliser, c'est ça.
Oui.
Ouais.
Oui. et pour moi, je ne sais pas où, mais je sais que j'ai lu une expression qui dit que le meilleur valeur au Canada au Québec, c'est le respect.
Mm-hmm.
Et j'ai pu vivre le respect parce que je me suis respecté mon espace, respecté comme j'ai mon vêtement, respecte qu'est-ce que j'ai pu dire. Je sais que peut-être il y a une personne qui on a pensé c'est drôle, mais je ne me sens pas ou je ne vois pas la expression de la personne parce que l'autre personne connaît le valeur du respect et simplement écouter ou voir quelque chose et continuer la vie.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est très, très important.
Parfait. Et ça conclut notre première partie. Ça, pour de vrai, c'est tellement intéressant. Puis c'est ce que je pensais aussi. Moi, j'avais plusieurs autres questions, mais... Déjà, c'est tellement riche, on pourrait passer un épisode complet à juste parler de la première question.
Okay.
Mais nous allons passer aux questions qui ont été écrites par vos enfants. Ce que je trouve assez comique, c'est que sans le savoir, vous avez répondu à certaines questions qui vous ont posées. Mais je vais y aller quand même poser la question parce que pour moi, il y avait quand même une grosse symbolique dans cette question, dans la façon que ça a été apporté. Parce que, bon, j'ai demandé à chacun d'écrire toutes les questions qui leur passent par la tête, n'importe quoi. Et il y a quelqu'un qui a écrit « Moi, je n'ai qu'une seule question. Et je voudrais savoir pourquoi vous m'avez amené au Canada. » Et donc, vous avez répondu déjà personnellement. Okay. Mais ce que j'aimerais... que vous fassiez, c'est maintenant, si vous aviez votre enfant devant vous et lui dire directement à votre enfant pourquoi vous l'aviez amené ici, parce que cette personne-là se pose des questions. Pourquoi tu m'as amené? Est-ce que ça peut être interprété de différentes façons, mais si vous aviez à leur répondre.
Bon, moi, je vais répondre un peu bref, parce que moi, premièrement, si j'ai amené mon enfant ici, parce que c'est la distance. Parce que j'ai laissé mon enfant, il avait un âge de si je ne me trompe pas, il avait trois ans, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et je viens de le voir à l'âge de
10 ans
que je viens de le voir. Mmh. Et quand j'ai décidé de venir, de quitter les États-Unis pour venir au Canada, et c'était obligé. Je ne l'ai pas obligé, mais c'est juste que je lui ai dit sincèrement que non. Les premiers jours que je l'ai vu, j'ai dit que non, comme tu es là à mes côtés, on ne va plus se séparer. Mmh. Et c'est pour cela, quand j'ai décidé de venir s'intégrer, s'immigrer ici au Canada, je lui ai dit vraiment qu'on va aller.
Donc, c'était un peu cette promesse de plus se séparer. Donc.
Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ça fait, disons, 10 ans, 2013 à 2020, donc ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas avec ma fille. Donc, j'étais obligé. Je ne l'ai pas obligé, mais c'était une obligation que moi-même, ouais, j'ai mis en moi, que c'est fini, qui reste à mes côtés. Ouais. Ouais.
Et pour vous, Maria, si votre enfant vous demandait pourquoi tu m'as amenée ici, qu'est-ce que tu lui répondriez?
En fait, ma fille m'a dit la question beaucoup de temps quand a commencé l'immigration ici. Et je lui ai dit que quand j'ai décidé d'être mère, ma fille, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de ma famille ou ma mère ou ma soeur ou quelque chose. C'est ma responsabilité et je sais que si j'ai décidé d'être sa mère, j'ai décidé de partir à quelqu'un place avec elle. La première fois, la première chose. La deuxième chose, quand la personne émigre quelque chose, n'importe pas le statut, la réalité, ce n'est pas la même que l'expectative. Tous les parents, ou beaucoup de parents pensent, OK, j'ai émigré seul, et en 6 mois, j'ai retourné à mon pays et amené mes enfants. Ce n'est vrai.
Ce n'est pas vrai.
Merci. Ce n'est pas vrai. Parce que en 6 mois, toutes les situations ont pu changer et continue ici dans le pays. Tu ne peux pas sortir, peut-être. Continue ici. Et comme Cristiano a dit, passez les ans. Ouais. Et quand rencontrez avec votre famille, ce n'est pas votre famille. C'est une personne que tu ne connais pas.
Mm.
Et tout le monde de famille que vous connaissez avant change.
Ouais, c'est ça.
On peut changer mieux, peut-être. On ne peut pas changer mieux. La majorité change mieux, non. C'est autre personne différente que vous rencontrez. Je ne vous pas cette situation pour ma fille. C'est la raison pourquoi j'ai amené à ma fille à aussi la sécurité de elle.
Oui.
De lui.
De elle.
Ah oui.
Une de vos, une fille a demandé quand est-ce qu'on va retourner?
Bon, retourner, pour moi, ça dépend de notre statut. Mais retourner pour aller vivre là-bas, je crois plus ça sera à toi, moi, le papa, à toi, après ma retraite, là, je peux aller m'installer à mon pays. Parce que là-bas, je sais qu'avec ma retraite, moi, je me sens que je serai un peu moins stressé là-bas.
Ouais.
Mais retourner aller vivre pour ma fille, pour moi, là, ça va dépendre d'elle. Quand elle va atteindre son âge de, disons, 18 ans, tout ça. S'il décide, mais je ne crois pas qu'il va décider d'aller vivre ou aller visiter, c'est correct. Mais pour moi, personnellement, pour retourner, pour le moment, on ne sait pas quand. Parce qu'on est dans un processus qui... On est d'abord demandé d'asile. Parce que si on sort, on n'entre plus.
Oui.
C'est ça. Donc, on ne sait pas.
OK.
Ouais.
Puis,
moi aussi. Ne sais pas. Maintenant, ne sais pas. Mais tout le temps, j'ai appris que tout le temps, je vois les verres bassos,
oui,
les verres et pleins. Ce n'est pas vide. Mais je l'ai dit à ma fille que on ne sait pas quand je peux arriver à votre pays, à notre pays, mais si c'est possible que notre famille vienne ici, ou on peut rencontrer en un différent pays.
Oui.
Mais je lui dis que ne pense pas en le temps. Seulement pense pas en le moment quand on peut amuser avec notre famille. C'est tout.
Puis est-ce que ça vous surprend ou comment ça vous fait sentir, vous qui avez tout quitté en fait pour le bien-être de vos enfants, pour être ensemble, qu'une des questions qui voulait le plus vous poser, c'était dans un sentiment de retourner dans le pays. Comment ça vous fait sentir que vos enfants veuillent retourner?
Moi, je peux dire que ces sentiments-là, c'est... Moi, je ne sais pas. Pour moi, je dis, c'est à toi manque. Comme ma fille, il manque, son frère le manque.
Oui.
Et comme son frère est au pays, et pour lui, il pense que retourner, c'est pour aller vivre avec mon frère à mes côtés. Et c'est ça, j'ai dit, le contraire, c'est, je crois que si, par exemple, on change le statut, je sais que c'est son frère qui va venir les rejoindre.
Et vous pensez que si le frère revient, ce sentiment de vouloir retourner va partir?
Ça va partir.
Okay.
Ça, parce que c'est son frère qui le manque souvent.
Okay.
Ouais, c'est ça.
Je ne comprends pas bien là.
Mais c'est comment ça vous fait sentir de savoir que votre fille pense à retourner en Colombie tandis que vous avez tout fait pour partir. Est-ce que ça vous fait sentir?
OK. Oui, oui.
Parce que par exemple mon père, moi quand j'étais plus jeune, moi je suis née ici, mais je disais moi je veux aller au Chili, il dit mais c'est parce que tu connais pas le Chili. Il me disait ça. Toi tu as une image, moi je l'ai vécu. Crois-moi, c'est pas ça que tu veux. Comme on a vraiment lui. Donc, et il a tout le temps été, pour lui, ça lui a tout le temps surpris. Il était comme, mais c'est quoi que t'as dans la tête?
Oui, parce que tu savais pas les réalités.
Ouais, ouais. Ouais. C'est comme, il comprend pas. Mais donc, est-ce que pour vous, comment vous ressentez ça, cette question de comme, mais pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu veux retourner? Ou est-ce que vous comprenez?
Oh oui. Heureusement, ma fille ne pense pas retourner à notre pays pour vivre. Non, parce que elle m'a dit que à Montréal et on peut partager plus ici et tout le temps je suis heureuse tout le temps dans mon pays ce n'est pas possible, j'ai stressé, couru, aller, venir, non, relaxé, tranquillement et elle peut voir elle peut voir comme je suis ici. Et elle m'a dit, OK, maman, si il y a la possibilité d'aller à votre pays, c'est comme un touriste. Je lui ai dit, oui, tu es correcte.
Parfait. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Je vais vous poser une dernière question.
Okay.
Donc, on va essayer d'être le plus concis possible. Là, je sais que, bon, vous devez ressentir plusieurs choses, mais ça, regardez ça, parce qu'au dernier épisode, on va revenir justement comment vous vous êtes senti de répondre aux questions et tout ça.
Okay.
Mais donc, on va terminer avec une question que j'ai trouvée intéressante, parce qu'en parlant aux filles, j'aurais dit, ah, est-ce que vous avez d'autres questions? Et les deux m'ont répondu, nous, on connaît très bien nos parents, on sait tous deux, ils nous ont tout dit. J'ai dit, ah oui. Mais alors, à ce moment-là, est venue la question... est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit de toi et pourquoi?
Wow.
OK.
Ou est-ce que vous êtes complètement un livre ouvert?
Oui.
Oh!
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit?
Est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que ça se peut que ça soit non aussi. Uh-huh. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne l'avez pas dit sur vous? Que ce soit quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous avez vécu, un trait de votre personnalité, que ça, vous avez caché à votre enfant, et pourquoi?
Bon, moi, bref, je peux dire, par rapport à l'âge que mon enfant est là maintenant, à toi, s'il y a des choses que je peux cacher, C'est juste pour ne pas le mettre trop de choses à sa tête pour le moment.
Okay.
Et à toi, quand il va atteindre l'âge un peu élevé, à toi, s'il y a des choses que j'ai cachées, je ne voulais pas les dire pour ne pas les déranger à ces moments par rapport à toi. Ça peut déranger ses études, vous savez, les enfants. Et je préfère à toi cacher ça pour le moment. Et quand il va atteindre un âge plus élevé, là, je peux lui expliquer. Ah, si ça, à toi, je ne t'ai pas dit. Maintenant, je l'ai dit maintenant parce que moi, je vais aller à retraite. Je vais aller.
Donc, il y a des choses que vous ne lui avez pas dit et que vous ne voulez toujours pas dire.
Je l'ai dit par rapport à son âge. Ouais, pour me protéger.
Oui.
Pour protéger aussi elle, pour ne pas les stresser pendant ce parcours qu'on a ici.
Mais quand elle va atteindre l'âge majeur, vous allez lui.
Oui, je veux lui dire des choses qui, à toi, qui est cachée, que je ne l'ai pas dit. Ouais.
Parfait. Et Maria?
Heureusement, j'ai pu parler avec ma fille beaucoup de choses, beaucoup de situations dans la langue ou la façon que accorde de la âge de ma fille, on peut dire.
Okay.
Mais accorde la question, je me suis un peu, je me suis un peu peur. Mm-hmm. Oui, de sa future.
Oui, c'est ça.
Parce que...
Ça, c'est quelque chose que vous ne lui avez pas dit.
Oui, oui.
Que vous avez peur de son futur.
Parce que, malheureusement, sa génération, c'est très, très, très drôle ou très, très différent de la génération que Cristiano et moi, on connaît.
Oui, c'est ça.
Mais en plus de la culture différente dans laquelle
et de la culture, de l'inclusion, quelque chose.
Oui.
Et tout le temps, comme j'ai dit avant, je suis... OK, avant, j'ai été adolescent. Mais c'est la première fois que je suis la mère d'un adolescent. Mais parfois, quelque chose qu'elle m'a dit, j'ai dit « wow ». Votre génération,
on entend les enfants arriver justement. Donc, mais écoutez, merci énormément.
Merci à toi.
C'était
aussi
magnifique. Moi, j'aurais continué à vous écouter pendant des heures.
Okay.
Mais on doit laisser la place. Alors, merci énormément. Puis, on se revoit au prochain épisode du Balado. Rassemblons-nous.
Okay, merci beaucoup. Bientôt.
Ce balado a été produit avec la participation financière de la Direction régionale de santé publique. Le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants est un organisme à but non lucratif qui accompagne les personnes immigrantes en leur offrant gratuitement différents services individuels et activités collectives. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site Internet au canamtl.com.